Nous vous présentons, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dôme. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
Les riches aussi se vendent pour de l'argent. Ils vendent leurs enfants faisant des mariages arrangés. Les enfants se marient sans amour. Les filles ont des maris, on les marie à des hommes qu'elles n'aiment pas. Elles ne le connaissent et qui seront soumises à cet homme toute leur vie. Les hommes les reçoivent dans leur couche pour pondre des enfants sans qu'on leur demande ce qu'elles en, si elles en désirent, si elles le désirent. Elles se taisent et de tout leur bien va à leur mari. Ne connaissant rien à la vie, sortant du couvent, on leur a appris les manières pour les marier. Le mari qui sera marié à elle, pas par amour, mais parce que son père est l'ami de celui de la jeune fille, et puis il faut bien se marier, même si l'on aime une autre personne. On traite d'animal le pauvre qui fait à sa façon ce que font les riches. C'est la même chose. Pour le pauvre, il le fait pour survivre, oui, pour survivre, et non pour s'enrichir encore plus. Voilà à quoi pense Maxime. Maxime, lorsqu'il revoit le jeune garçon, veut lui payer un repas et lui donner un peu d'argent. L'enfant lui demande « Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me prendre avec vous ?» Maxime lui dit « Je ne peux pas, mais je peux te trouver un travail à la banque. » Polo lui dit « Je veux bien. » Après discussion avec son père, le père accepte comme garçon d'ascenseur. Maxime l'habille proprement. Et lui montre le travail. Les employés sont surpris. Ils n'aiment pas voir les pauvres s'en sortir, surtout lorsqu'on est pauvre soi-même. Polo est content, mais il vient souvent avec des vêtements tachés. On lui fait des reproches. Maxime va le voir. Le pauvre garçon lui dit « Ma mère ne veut pas toujours nettoyer le costume. Et puis, elle n'est pas contente. Elle préférait lorsque j'étais à la rue. Là, ce n'est pas un travail pour eux. Mon père me tape et il est jaloux. Il dit que je ne travaille pas vraiment. Il dit que nous pourrions, que vous pourriez mieux nous aider, que vous pourriez mieux m'aimer, mieux, ça ne le rapportera pas assez. Maxime se dit que les pauvres veulent que les pauvres restent pauvres. Ils sont jaloux les uns des autres. Les jours passent et un jour, le pauvre garçon ne revient pas travailler. Maxime est triste. Il se dit que les autres ont fini par l'avoir. Son père, le père du petit, la mère, les autres, ne voulaient pas qu'il ait un travail qui ne soit pas comme les leurs, pauvre petit. Ils ont vraiment fini par l'avoir. Maxime pense toujours à David. Il rêve aussi à la montagne enneigée. Rose dit à son père qu'il n'y a pour Il n'y a plus rien pour moi dans cette vie. Je veux rentrer au couvent. » Il est effondré. Elle lui dit, il n'y a pas de place pour une fille de naissance illicite. Le mariage m'est interdit, il n'y a que le couvent. Donne-moi une dot pour que je puisse y rentrer. Son père lui dit, j'accepte. Il le fait parce qu'elle a peut-être raison. Et c'est au Petit Versailles, une institution pour jeunes filles de bonne famille qui aide les pauvres. Où elle va rentrer. Elle entre au couvent, loin du monde, mais pas loin des pauvres. Le père est très triste. Il lui dit avec amertume, « Je suis triste que tu me quittes. Je viendrai te voir souvent. » Il lui donne une bonne dot pour qu'elle ne se sente pas en infériorité. Il est très, très triste. Sa femme voit que quelque chose ne va pas. Elle le harcèle de questions. « Qu'as-tu ?» Il lui dit « Rien ». Elle a peur qu'il ait des ennuis d'argent. « T'as des ennuis d'argent ?» Il dit « Non, ne te fais pas de soucis. » Henri dit à Maxime qu'elle est partie. Maxime se dit que c'est à cause de lui. Maxime aussi aimerait partir. Mais n'ose pas, car s'il partait, son père serait seul à s'occuper de la banque. Les affaires sont de plus en plus compliquées. L'on joue de plus en plus en bourse. Les ouvriers sont des machines que l'on jette dès qu'on n'en a plus besoin. Il y a des conflits, des grèves pour les augmentations de salaire. Diminution de temps de travail. Les patrons ne veulent rien céder et la République bourgeoise, cette santé de République, de Troisième République, est de leur côté. L'on lance contre les piquets de grève la police, l'armée, pour qu'elles tirent sur les ouvriers qui ne veulent pas travailler. Les patrons créent leur syndicat pour savoir ce qu'il faudrait faire pour lutter contre les grévistes. Ils ne peuvent pas leur donner ce qu'ils demandent parce qu'ils en demanderaient encore plus, encore plus. Maxime est du côté des ouvriers, mais le cache. Maxime rêve d'une vie pure et simple.
Un jour, Maxime, dans le hall de la banque, il y a du monde. Ça fait la queue pour aller au guichet. Il voit qui attend un jeune homme d'à peu près 18 ans, grand, mince, peau blanche, cheveux noirs qui ondulent, yeux bleus. Et distingué et beau avec sa redingote marine. Maxime s'apprête à ouvrir la porte de son bureau. Le jeune homme arrive à lui et demande : Monsieur, vous êtes de la banque ? Maxime lui dit : Oui, monsieur. Monsieur, je suis très pressé. Je dois retourner à Nico. Pouvez-vous me prendre tout de suite ? Maxime lui demande : C'est pourquoi, monsieur ? C'est juste pour prendre de l'argent sur mon compte. Maxime se dit qu'il y en a pour 5 minutes. Alors il dit : Viens, entrez dans mon bureau. Il entre. Asseyez-vous. Il va asseoir devant son bureau. Maxime lui demande : Monsieur, vous vous appelez ? Le jeune homme lui dit : Nicolas Charbonnet. Maxime lui demande : Il vous faut combien ? Nicolas lui donne la somme. Maxime se lève et lui dit : Je vais vous chercher ça, monsieur. Il sortit du bureau pour aller chercher l'argent. Avec la somme. Voilà, monsieur, signez ce papier. Nicolas signe et lui donne l'argent. Voilà, monsieur. Et le jeune homme s'en va. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci. Plus tard, à la sortie de la banque, Maxime retrouve Nicolas. Nicolas va à Maxime. Maxime est surpris. Nicolas lui dit : Je passais. Je ne sais pas. Je ne savais pas où aller. Je n'ai pas envie, c'est de rentrer chez moi. Je déteste ma famille. Maxime est surpris qu'il lui parle comme ça. Mais trouve le jeune homme sympathique. Il ne sait pas pourquoi. Mais le trouve sympathique. Et puis, lui aussi a besoin de se confier. Alors il lui dit : Moi aussi j'ai des difficultés avec ma famille. Nicolas sourit et lui dit : J'ai appris par hasard que ce n'était pas ma famille. C'est peut-être pour ça qu'on m'en fait de toutes les couleurs. Maxime lui dit : Il le trouve sympathique. Parce qu'il le trouve sympathique. Allons au restaurant, si vous voulez. Nicolas, tout heureux, lui dit : Vous me prenez pour quelqu'un de bien ? Maxime lui dit : Oui, pourquoi non ? Nicolas lui dit : On me prend pour un malade. J'ai pas d'amis. Lui, mon frère, en a beaucoup. Et il a aussi beaucoup de filles. Moi, non. Je déteste mon frère. Tout ce qu'il fait est bien. Et ils entrent dans le restaurant. C'est un restaurant, pas bien loin de la rue de la République. Il y a du monde. Maxime choisit une table pour deux personnes. Le serveur va à eux. Il leur donne les cartes. Ils choisissent le menu. Demi-heure plus tard, ils se mettent à manger de bon appétit. Maxime lui demande : Que faites-vous ? Nicolas lui dit : Je suis à l'université, j'étudie la biologie. Maxime lui dit : Ça doit être très intéressant, ça. Nicolas lui dit : Ouf, Il faut bien apprendre quelque chose. Une fois sorti du restaurant, Maxime lui dit « Vous avez un ami maintenant ? Vous n'êtes plus seul ? » Nicolas est tout heureux. Il lui dit « Je suis heureux. » Maxime se dit qu'il ne remplacera jamais David. Un ami, on n'en a qu'un. Pourquoi a-t-il dit ça ? Pourquoi avoir de l'amitié pour lui ? Nicolas lui demande « Nous reverrons ?» Maxime lui dit « Oui, bien sûr, puisque nous sommes amis. » Nicolas est tout heureux, sourit et s'en va. Maxime se dit qu'il ne remplacera jamais David. Un ami, on n'en a qu'un. Mais pourquoi a-t-il dit ça? Et pourquoi avoir de l'amitié pour lui, le connaît à peine? Les jours passent. Maxime voit souvent Nicolas est sorti de la banque. Ils vont manger ensemble. Nicolas lui parle de son frère qui est un salopard et qu'il a de la chance. Maxime lui dit « Moi aussi j'ai un frère. Mais j'y fais pas attention. Il faut pas que votre frère vous empêche d'être heureux. Votre frère est mieux en ceci ou cela. Mais vous, vous pouvez aussi essayer d'être mieux en ceci ou cela. » Vous êtes mieux en ceci ou cela. Il suffit de faire un geste, un pas, pour faire des choses sans s'occuper des autres, mais en pensant à vous faire plaisir. Vous ne devez pas rester bloqué parce que vous croyez que les autres sont mieux que vous. Cela vous empêche qu'il vous arrive quelque chose de bien. Bien au contraire, allez-y sans penser aux autres. Nicolas lui demande. Mais quoi? Fais ce que vous aimez faire, sans chercher à penser à votre frère. Un jour, Maxime doit partir avec sa famille en Bourgogne pour les vacances. Lorsqu'il revoit Nicolas, il le lui dit. Nicolas est très triste. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Maxime lui dit. Nous nous reverrons dans 15 jours. Nicolas est effrayé. 15 jours sans lui. Il lui dit. 15 jours, c'est terrible. Qu'est-ce que je vais devenir? Moi, sans toi. Maxime ne sait quoi dire. Il a peur de cette amitié trop forte. Il lui dit. Je penserai à toi. Et puis 15 jours, c'est court. Tu verras. Maxime part en vacances avec ses parents dans le château de leur mère. Ils y vont parce que le château est un peu délabré. Les domestiques y vont toutes les années. Ils y vont un chauffeur en voiture. Maxime aime se retrouver en pleine nature. Il aime ses demeures qui se font dans le décor. Son frère est resté à Lyon, ça détend la famille. La mère se souvient de sa jeunesse. lorsqu'elle était jeune fille. Oui, elle se souvient de sa jeunesse, lorsqu'elle était jeune fille. Elle croyait, et ses cousines aussi, qu'il y avait un fantôme, le fantôme d'un jeune homme, qui s'est tué en allant la nuit rejoindre son amoureuse. Le père de la jeune fille l'a tué, et depuis, l'on dit que le jeune homme erre dans la demeure à la recherche de la bien-aimée. On a dit à la mère qu'elle ressemblait à la jeune fille, et elle à un tableau du jeune homme, parce qu'il était cousin de la jeune fille. Elle a passé des heures à le regarder, et la nuit, il lui semble qu'il y a quelqu'un près d'elle qui la regarde dormir. Elle pense à ça dans sa chambre et se dit que tout est bien fini, que la vie a eu le dernier mot. Dans la nuit, elle est réveillée par un petit bruit, effrayée. Puis, intriguée, elle se lève. En chemise de nuit et pieds nus, elle sort de la chambre. Là, dans le couloir, elle voit le fantôme du jeune homme habillé de blanc. Il semble perdu. Il a une grande élégance. Il a de la jeunesse. La mère n'a pas peur. Lorsque le fantôme la voit, il se retourne, prend peur. Il lui dit, n'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur, je suis une amie. Le fantôme, intrigué, se retourne et lui dit, j'ai bien vieilli, mais lorsque j'étais jeune, je lui ressemblais. Le fantôme ne dit rien et lui demande, vous ne tombez pas? Il ne dit rien et lui dit, vous n'avez pas changé. Vous ressemblez au tableau de la bibliothèque. Peut-être plus jeune, mais je peux vous reconnaître maintenant parce que je restais des heures à regarder votre tableau la nuit. Je rêvais de vous. Je me sentais près de moi votre souffle. C'était vous, n'est-ce pas? Fait oui de la tête, elle lui demande, vous m'aimez un peu? Il fait oui de la tête, elle lui dit, nous pourrons aller nous asseoir sur un banc du parc, il fait si doux ce soir, j'ai tant souhaité cette rencontre, ça arrive bien tard, mais elle est là, venez, sortons, la pleine lune ne doit pas vous faire peur. Il fait non de la tête et ils sortent du château. Elle fait plus fantôme que lui, avec sa chemise de nuit blanche et pieds nus. Elle le met s'asseoir sur un banc près d'un arbre. Lui dit, sur ce banc, je rêvais à vous ici. Votre blessure ne vous fait plus mal? Fait non de la tête, elle lui dit, j'avais gardé vos jolis yeux. En fait, mourir jeune, ce n'est pas si mal. L'on reste éternellement jeune. tandis que chez l'homme morvieux, on a pour l'éternité des rides. Quelle horreur! Je voudrais prendre votre main. Il la lui donne, elle la prend, dit, elle est froide et bien en vie. Je vous aime tant, vous ne pouvez pas savoir. Pour moi, vous êtes le jeune homme idéal. Et puis beau. Parfois, la nuit, je sentais que l'on effleurait mes lèvres. Aucun baiser m'a fait cet effet. Je vous aime. Il se penche et lui donne plutôt, lui effleure les lèvres et s'abandonne à lui. Tout à coup, ils entendent un aboiement d'un chien. Oui. Oui, c'est bien un aboiement d'un chien. Il se lève et se saute en courant. Elle lui crie, restez, il ne vous fera aucun mal. Aucun mal. Je suis près de vous. Mais il a disparu. En laissant sur le banc un mouchoir taché de rouge. Elle le prend et s'en retourne tristement. Maxime dort d'un sommeil profond. Il est bien, il est très bien. Maxime, Maxime, on vient de l'appeler. Sursaute, d'un bond se réveille. Il a laissé la lampe de chevet éclairée. Il voit pencher sur lui le visage de Nicolas. Nicolas sourit et lui dit, « Eh oui, c'est moi, tu n'es pas content de me voir ?» Maxime lui dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Nicolas lui dit, « Je suis venu te voir. » Maxime lui dit, « Mais tu n'as pas le droit d'être là. » Nicolas lui dit, « Tu ne peux pas me mettre à la porte ? Un pauvre blessé ?» Et lui montre la main qui saigne un peu. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, d'Homme. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.